à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Antoine d'Aragon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Antoine d'Aragon, la semaine dernière, vous avez discuté avec nous dans cette même émission de la question des forêts et des risques d'incendie et de la façon dont sont gérés ces problèmes en France. Mais vous avez accepté de venir partager un deuxième débat avec nous pour parler d'un autre sujet qui n'a pas grand-chose à voir, qui est celui de la guerre en Europe, évidemment entre l'Ukraine et la Russie. Et vous avez une certaine légitimité pour aborder ce sujet avec nous, puisque d'une part, vous êtes le fils de Charles d'Aragon, qui est un grand résistant fort connu dans le Tarn, et qui s'est toujours beaucoup intéressé à ça, et je pense qu'il vous a un peu transmis le flambeau. Et vous-même, vous avez mené une carrière pendant presque toute votre vie professionnelle chez Airbus, où vous étiez en charge plus particulièrement de deux régions, les pays de l'Est et en particulier la Russie. Vous parlez d'ailleurs le russe et vous avez gardé un certain nombre de contacts là-bas. Et puis également l'Afrique noire, où vous avez également eu beaucoup de relations et vous avez gardé des contacts. Donc je voudrais que, en tant que chrétien bien connu d'Albi, vous nous partagiez avec nous vos sentiments sur cette guerre qui n'en finit plus et sur les interrogations et les éclairages que vous pouvez nous apporter à travers vos propres réseaux d'amitié et de professionnels. Donc ma première question, c'est la crainte d'une extension du conflit. Je crois que face à l'enlisement de cette guerre, on en est arrivé quasiment à une guerre de tranchées. On a l'impression de revivre la grande guerre de 14-18, ce qui est assez hallucinant. Si on remonte un peu en arrière, on ne pouvait pas imaginer ça, mais enfin, c'est un fait aujourd'hui. Mais il y a une crainte qui est apparue de façon plus récente là, ces derniers mois. C'est celle d'une extension vers d'autres terrains, et notamment vers la Pologne, où les troupes de Wagner ont été redisposées, semble-t-il, en Biélorussie. Et les Polonais disent, et les Américains eux-mêmes ont attiré l'attention sur le fait qu'il y avait un certain nombre de troupes massées près de la frontière polonaise. Donc, est-ce que vous croyez qu'une extension du conflit est possible et serait un deuxième front pour la Russie? Est-ce que tout ça vous paraît possible?
Ben, j'ai pas la prétention de vouloir faire des pronostics. D'ailleurs, j'ai l'impression que personne ne s'y risque plus guère, même les spécialistes autoproclamés de certaines chaînes de télévision.
C'est un peu vrai.
Mais je garde énormément de contacts avec des amis à qui je téléphone régulièrement, que ce soit en Ukraine ou en Russie. Mais il y a une chose quand même qui me frappe, c'est qu'une guerre de tranchées, comme vous en parlez, est une guerre qui implique d'avoir des soldats. Et j'ai quand même l'impression, et c'est une impression dont j'ai l'impression qu'elle est partagée par mes amis russes et ukrainiens, c'est qu'il y a des difficultés de plus en plus importantes à recruter. Les Russes ont recruté beaucoup dans les nationalités un petit peu excentrées. On a vu beaucoup de Bouriates, par exemple, on voit des Tchétchènes. Le Russe blanc-blanc de Saint-Pétersbourg et de Moscou, j'ai un peu moins l'impression qu'il a envie d'aller se faire tuer
dans les tranchées
dans
du
les
Donbass.
Tranchées.
Oui.
Vous avez également, on connaît tous la démographie russe qui est en
chute libre,
pas en chute libre, mais quasi chute libre. Et tout ça aggravé par le fait qu'il y a quand même, je crois, entre 800 000 et 1 million de personnes qui ont quitté la Russie, qui étaient souvent d'ailleurs les gens les plus éduqués, et qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient opposés à cette guerre, ou tout simplement parce qu'ils n'avaient peut-être pas envie de se battre. Donc, ouvrir un front avec un pays qui, a priori, serait infiniment mieux préparé que l'Ukraine, ça me semble compliqué. D'autant plus que s'il y avait un conflit avec la Pologne, à ce moment-là, ça impliquerait un conflit avec l'OTAN. Donc, moi, je vois pas tellement pourquoi il y aurait une extension du conflit. J'ai un peu l'impression, c'est ce que je pensais il y a un an, c'est qu'on risque de se retrouver avec quelques centaines de milliers de morts au bout de quelques temps et une situation qui sera à peu près figée, avec une Crimée qui resterait russe et une Donbass sous un statut spécial.
Oui, mais pour arriver à
mon jugement n'a aucune valeur. Hein.
Non, bien sûr, mais c'est quand même aussi le fruit de la culture que vous avez développée avec ces pays de l'Est et des réseaux d'amis que vous avez là-bas. Simplement, le sentiment que partagent beaucoup d'Européens, je pense, en tout cas à travers la presse, et ce qu'on nous en raconte, c'est que là, la situation est figée, ou quasiment figée. Enfin, oui. Les Ukrainiens, de temps en temps, annoncent qu'ils ont repris 3 ou 4 kilomètres carrés par-ci, par-là, mais enfin, vu les étendues en question, c'est quasiment rien. Donc, comment sortir de cette situation? C'est un peu ce qui s'est passé en 14-18, qui finit par s'éterniser et par faire énormément de morts, comme vous le disiez. C'est par la négociation. Or, on ne voit pas arriver de négociation. Et on se dit, mais c'est l'impasse. Comment on arrête ça? J'ai l'impression que les Européens sont relativement impuissants face à cette situation et que beaucoup d'autres pays dans le monde se détournent, ne sont pas vraiment intéressés par le problème. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, il y a des choses, en dehors du terrain guerrier, du terrain militaire, il y a des choses qui sont extrêmement gênantes pour les Russes. C'est par exemple la chute de la rouble. Je crois qu'aujourd'hui, il faut 100 roubles pour avoir un dollar. Ou pour avoir un euro, puisqu'on est à peu près proche. Il y a 15 ans, il fallait 27 roubles pour avoir un euro.
Oui, il y a une inflation terrible. Donc
ça risque de générer une inflation considérable.
Sur les produits importés.
Sur des produits importés. Les Russes ont quand même s'ils exportent du pétrole, ils ne l'exportent pas dans les mêmes conditions que s'ils l'exportaient en direct. Puisque quand on est obligé de faire du billard à 3 bandes, inévitablement, on est obligé de le vendre un peu moins cher. L'une des autres armes sur lesquelles je pense joue la Russie en ce moment, c'est l'arme du blé, puisqu'ils n'ont pas renouvelé les accords qui permettaient à l'Ukraine d'exporter du blé, en mettant en avant le fait que ces accords n'avaient pas été respectés ni par les Ukrainiens ni par les Occidentaux, et que nous avions mis des obstacles à l'exportation et de blé russe et surtout d'engrais. Donc aujourd'hui, les Russes ont beau dire, notamment dans leur politique africaine, de dire « Regardez ces méchants occidentaux qui nous empêchent de vous fournir en blé, ou du moins qui limitent les exportations de blé, et qui également limitent aux exportations d'engrais.
Ouais. »
La Russie est le premier exportateur de blé et le premier exportateur d'engrais au monde.
Est-ce que cette arme économique, finalement, à travers, d'une part, le pétrole, mais on voit bien que c'est contourner et que, au fond, tout le monde a intérêt à ce que les Russes contournent un peu parce qu'on a besoin du pétrole russe de toute façon globalement sur la planète. Et d'ailleurs, lorsque les Ukrainiens ont attaqué un des pétroliers russes, ils l'ont fait une fois, ça a fait monter les cours du pétrole en flèche pendant quelques jours. Et donc, on voit bien que tout le monde a dû leur dire de s'arrêter de faire ça parce que c'était pas possible. Mais pour le blé et pour les engrais, comme vous dites, c'est une arme, effectivement, qui peut les amener, vous pensez, autour de la table des négociations?
Je dis simplement qu'aujourd'hui, les Russes s'en servent beaucoup, notamment dans leur politique africaine, et que c'est certainement un bon moyen d'obtenir la neutralité d'un certain nombre de pays du tiers-monde, entre guillemets, qui ont besoin et du blé et des engrais, et qui finalement ne se passionnent pas pour
ce qui se passe en Europe.
Pour ce qui se passe entre blancs.
Ouais. Ça, c'est sûr que c'est un conflit sur lequel nous, Européens, avons un prisme très fort, mais vu d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie, même de l'Inde, etc., c'est sûr que la perspective est très différente. Alors revenons, puisque vous le disiez, vous en parliez, à l'intervention, entre guillemets, russe en Afrique. Poutine, après le soulèvement de M. Prigogine et des troupes de Wagner, a dit on va redéployer les troupes de Wagner en Afrique. Et on voit bien que la France est en train de perdre des positions en Afrique, alors, et que les Russes, le drapeau russe en tout cas, est considérablement mis en avant au Niger en particulier par la junte militaire qui a pris le pouvoir. Donc il y a un rapprochement réel avec les Russes. Vous qui avez à la fois des amis en Russie, mais aussi beaucoup travaillé avec l'Afrique, quelle est votre vision de cette place des Russes au Sahel en particulier?
J'ai le sentiment que les Russes ont remarquablement travaillé les réseaux sociaux et ont tapé de façon extrêmement efficace sur les Français. Je pense également que ils ont fait comprendre à un certain nombre de chefs d'État africains qui voulaient rester au pouvoir ou qui voulaient le conquérir, qu'avec eux, ça serait beaucoup plus simple. Regardez ce qui se passe au Centrafrique. Au Centrafrique, les Russes en sont arrivés à faire modifier la constitution du pays pour que le président soit quasiment un président à vie.
Façon Poutine.
Façon Poutine, donc, si vous voulez, je pense qu'il y a des chefs d'État qui sont très contents d'avoir une espèce de garde prétorienne, laquelle est rémunérée par des contrats extrêmement intéressants, notamment en matières premières, en diamants, etc. C'est ce qu'on voit au Centrafrique. Au Centrafrique,
Et au Niger, les positions de la France sont perdues, à votre avis ?
Moi, je ne vois pas très bien ce que peut faire la France, parce que le gouvernement...
Donc, ça veut dire qu'on va retirer nos
troupes. Le gouvernement de Putschiste a demandé à la France de partir. La France dit, nous, on a négocié avec un gouvernement officiel, vous ne l'êtes pas, donc on ne bouge pas. Mais combien de temps est-ce que c'est tenable? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Les Américains, qui sont plus pratiques, ont l'air de discuter avec les Putschistes. J'ai l'impression qu'ils ne veulent absolument pas perdre leur base au Niger.
Ouais. Ils ont deux bases au Niger, une plaque stratégique.
Et est-ce que la CDAO est en mesure d'intervenir? Honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des affaires militaires, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les moyens, notamment les moyens logistiques, pour engager une opération militaire quelconque.
De grande envergure, en tout cas.
Même si Niamey n'est pas très loin... De la frontière nigériane, c'est assez compliqué. L'armée nigériane, elle n'est pas extrêmement nombreuse.
Donc les Russes, en fait, c'est pas tellement un second front en Europe qu'il faut redouter, mais leur front, c'est plus un front diplomatique et économique en Afrique. Et ça, je pense qu'on ne l'avait pas trop vu venir, peut-être, de notre côté. En tout cas, on l'a découvert cet été. Est-ce que c'est ce sentiment que vous avez également?
Moi, je raisonne beaucoup en termes de démographie. Et je vous ai dit, la démographie occidentale, et notamment la démographie russe, c'est une démographie en chute libre. Ouais. Ou du moins en baisse. La démographie africaine, quand j'ai commencé à travailler au Nigeria, il y avait 80 millions de Nigériens en 82. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus de 200. Et on s'attend à ce qu'il y ait 350 millions de Nigériens en 2050 ou en 2060. L'explosion démographique africaine me fait penser qu'en fait, le véritable problème, c'est plutôt un problème africain. Comment va-t-on faire avec cette espèce de poussée démographique, cette poussée démographique qui va inciter les gens à bouger de façon considérable? Je crois que le vrai problème de l'avenir, il est beaucoup plus là que dans le Donbass.
Eh bien, merci pour cet éclairage fort intéressant, Monsieur D'Aragon. Et encore une fois, merci de nous faire partager toutes vos expériences et les relations dans vos réseaux sociaux. Merci.